Édouard Chouret, Les Grands Initiés, Livre 6, Pythagore, Les Mystères de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Inscription du Temple de Delphes. Le sommeil, le rêve et l'extase sont les trois portes ouvertes sur l'au-delà, d'où nous vient la science et l'art et la divination. L'évolution est la loi de la vie, le nombre est la loi de l'univers, l'unité est la loi de Dieu. Chapitre 1 : La Grèce au VIe siècle. L'âme d'Orphée avait traversé comme un divin météore le ciel orageux de la Grèce naissante. Lui disparu, les ténèbres l'envahirent de nouveau. Après une série de révolutions, les tyrans de la Thrace brûlèrent ses livres, renversèrent ses temples, chassèrent ses disciples. Les rois grecs et beaucoup de villes, plus jalouses de leur licence effrénée que de la justice qui découle des pures doctrines, les imitèrent. On voulut effacer son souvenir, détruire ses derniers vestiges, et l'on fit si bien que quelques siècles après sa mort, une partie de la Grèce doutait de son existence. En vain les initiés conservèrent-ils sa tradition pendant plus de 1000 ans. En vain Pythagore et Platon en parlaient-ils comme d'un homme divin. Les sophistes et les rhéteurs ne voyaient plus en lui qu'une légende sur l'origine de la musique. De nos jours encore, les savants nient carrément l'existence d'Orphée. Ils s'appuyaient principalement sur ce fait que ni Homère ni Hésiode n'ont prononcé son nom. Mais le silence de ces poètes s'explique amplement par l'interdit que les gouvernements locaux avaient jeté sur le grand initiateur. Les disciples d'Orphée ne manquaient aucune occasion de rappeler tous les pouvoirs à l'autorité suprême du temple de Delphes et ne cessaient de répéter qu'il fallait soumettre les différends survenus entre les divers états de la Grèce au conseil des amphitryons. Cela gênait les démagogues autant que les tyrans. Homère, qui reçut probablement son initiation au sanctuaire de Tyr, et dont la mythologie est la traduction poétique de la théologie de Sankyonathon, Homère lyonien, put fort bien ignorer le dorien Orphée, dont on tenait la tradition d'autant plus secrète qu'elle était plus persécutée. Quant à Hésiode, né près du Parnasse, il dut connaître son nom et sa doctrine par le sanctuaire de Delphes. Mais ses initiateurs lui imposèrent le silence, et pour cause. Cependant, Orphée vivait dans son œuvre. Il vivait dans ses disciples et dans ceux-là même qui le niaient. Cette œuvre, quelle est-elle? Cette âme de vie, où faut-il la chercher? Est-ce dans l'oligarchie militaire et féroce de Sparte, où la science est méprisée, l'ignorance érigée en système, la brutalité exigée comme un complément du courage? Est-ce dans ces implacables guerres de Messénie, où l'on vit les Spartiates poursuivre un peuple voisin jusqu'à l'extermination, et ces Romains de la Grèce, préludés à la roche tarpéienne et au laurier sanglant du Capitole, en précipitant dans un gouffre l'héroïque Aristomène, défenseur de sa patrie? Est-ce plutôt dans la démocratie turbulente d'Athènes, toujours prête à verser dans la tyrannie? Est-ce dans la garde prétorienne de Pisistrate ou dans le poignard d'Harmodius et d'Arostigon, caché sous une branche de myrte? Est-ce dans les villes nombreuses de l'Hellade, de la Grande Grèce et de l'Asie mineure, dont Athènes et Sparte offre les deux types opposés. Est-ce dans toutes ces démocraties et ces tyrannies envieuses, jalouses et toujours prêtes à s'entre-déchirer? Non, l'âme de la Grèce n'est pas là. Elle est dans ses temples, dans ses mystères et dans leurs initiés. Elle est au sanctuaire de Jupiter à Olympie, de Junon à Argos, de Cérès à Eleusis. Elle règne sur Athènes avec Minerve, elle rayonne à Delphes avec Apollon, qui domine et pénètre tous les temples de sa lumière. Voilà le centre de la vie hellénique, le cerveau et le cœur de la Grèce. C'est là que vont s'instruire les poètes qui traduisent à la foule les vérités sublimes en vivantes images, les sages qui les propagent en dialectique subtile. L'esprit d'Orphée circule partout où palpite la Grèce immortelle. Nous le retrouvons dans les luttes de poésie et de gymnastique, dans les jeux de Delphes et d'Olympie, institutions heureuses qu'imaginèrent les successeurs du maître pour rapprocher et fondre les 12 tribus grecques. Nous la touchons du doigt dans le tribunal des Amphictyons, dans cette assemblée de grands initiés, cour suprême et arbitrale, qui se réunissait à Delphes, grand pouvoir de justice et de concorde, en qui seule la Grèce retrouva son unité, aux heures d'héroïsme et d'abnégation. Cependant, cette Grèce d'Orphée, ayant pour intellect une pure doctrine gardée dans les temples, pour âme une religion plastique, et pour corps une haute cour de justice centralisée à Delphes, cette Grèce commençait à péricliter dès le 7e siècle. Les ordres de Delphes n'étaient plus respectés. On violait les territoires sacrés. C'est que la race des grands inspirés avait disparu. Le niveau intellectuel et moral des temples avait baissé. Les prêtres se vendaient au pouvoir politique. Les mystères eux-mêmes commencèrent dès lors à se corrompre. L'aspect général de la Grèce avait changé. À l'antique royauté sacerdotale et agricole succédait ici la tyrannie pure et simple, là l'aristocratie militaire, là encore la démocratie anarchique. Les temples étaient devenus impuissants à prévenir la dissolution menaçante. Ils avaient besoin d'un aide nouveau. Une vulgarisation des doctrines ésotériques était devenue nécessaire. Pour que la pensée d'Orphée pût vivre et s'épanouir dans tout son éclat, il fallait que la science des temples passât dans les ordres laïcs. Elle se glissa donc sous divers déguisements dans la tête des législateurs civils, dans les écoles des poètes, sous les portiques des philosophes. Ceux-ci sentirent dans leur enseignement la même nécessité qu'Orphée avait reconnue pour la religion, celle de deux doctrines, l'une publique, l'autre secrète, qui exposaient la même vérité, dans une mesure et sous des formes différentes, appropriées au développement de leurs élèves. Cette évolution donna à la Grèce ses 3 grands siècles de création artistique et de splendeur intellectuelle. Elle permit à la pensée orphique, qui est à la fois l'impulsion première et la synthèse idéale de la Grèce, de concentrer toute sa lumière et de l'irradier sur le monde entier, avant que son édifice politique, miné par les dissensions intestines, ne s'ébranlât sous les coups de la Macédoine, pour s'écrouler enfin sous la main de fer de Rome. L'évolution dont nous parlons eut bien des ouvriers. Elle suscita des physiciens comme Thalès, des législateurs comme Solon, des poètes comme Pindare, des héros comme Épaminondas. Mais elle eut un chef reconnu, un initié de premier ordre, une intelligence souveraine, créatrice et ordonnatrice. Pythagore est le maître de la Grèce laïque, comme Orphée est le maître de la Grèce sacerdotale. Il traduit, il continue la pensée religieuse de son prédécesseur et l'applique au temps nouveau. Mais sa traduction est une création, car il coordonne les inspirations orphiques en un système complet. Il en fournit la preuve scientifique dans son enseignement et la preuve morale dans son institut d'éducation, dans l'ordre pythagoricien qui lui survit. Quoiqu'il apparaisse au plein jour de l'histoire, Pythagore est resté un personnage quasi légendaire. La raison principale en est la persécution acharnée dont il fut victime en Sicile et qui coûta la vie à tant de pythagoriciens. Les uns périrent écrasés sous les débris de leur école incendiée. Les autres moururent de faim dans un temple. Le souvenir et la doctrine du maître ne se perpétuèrent que par les survivants qui purent fuir en Grèce. Platon, à grand-peine et à grand prix, se procura par Archytas un manuscrit du maître, qui d'ailleurs n'écrivit jamais sa doctrine ésotérique qu'en signe secret et sous forme symbolique. Son action véritable, comme celle de tous les réformateurs, s'exerçait par l'enseignement oral. Mais l'essence du système consiste dans les vers dorés de Lysis, dans le commentaire d'Hiéroclès, dans les fragments de Philolaos et d'Archytas, ainsi que dans le Timée de Platon, qui contient la cosmogonie de Pythagore. Enfin, les écrivains de l'Antiquité sont pleins du philosophe de Croton. Ils ne tarissent pas d'anecdotes qui peignent sa sagesse, sa beauté et son pouvoir merveilleux sur les hommes. Les néoplatoniciens d'Alexandrie, les gnostiques et jusqu'au premier père de l'Église le citent comme une autorité. Précieux témoignage où vibre toujours l'onde puissante d'enthousiasme que la grande personnalité de Pythagore sut communiquer à la Grèce et dont les derniers remous sont encore sensibles 8 siècles après sa mort. Vue d'en haut, ouverte avec les clés de l'ésotérisme comparé, sa doctrine présente un magnifique ensemble, un tout solidaire, dont les parties sont reliées par une conception fondamentale. Nous y trouvons une reproduction raisonnée de la doctrine ésotérique de l'Inde et de l'Égypte, à laquelle il donna la clarté et la simplicité hellénique, en y joignant un sentiment plus énergique, une idée plus nette de la liberté humaine. À la même époque et sur divers points du globe, de grands réformateurs vulgarisaient des doctrines analogues. Lao Tzu sortait en Chine de l'ésotérisme de Fo-Yi. Le dernier Bouddha, Sakyamuni, prêchait sur les bords du Gange. En Italie, le sacerdoce étrusque envoyait à Rome un initié muni des livres sibyllins, le roi Numa, qui tenta de réfréner par de sages institutions l'ambition menaçante du Sénat romain. Et ce n'est point par hasard que ces réformateurs apparaissent en même temps chez des peuples si divers. Leurs missions différentes concourent à un but commun. Elles prouvent qu'à certaines époques, un même courant spirituel traverse mystérieusement toute l'humanité. D'où vient-il ? De ce monde divin qui est hors de notre vue, mais dont les génies et les prophètes sont les envoyés et les témoins. Pythagore traversa tout le monde antique avant de dire son mot à la Grèce. Il vit l'Afrique et l'Asie, Memphis et Babylone, leur politique et leur initiation. Sa vie orageuse ressemble à un vaisseau lancé en pleine tempête. Voile déployée, il poursuit son but sans dévier de sa route. Image du calme et de la force au milieu des éléments déchaînés. Sa doctrine donne la sensation d'une nuit fraîche, succédant aux feux aigus d'une journée sanglante. Elle fait penser à la beauté du firmament qui déroule peu à peu ses archipels scintillants et ses harmonies éthérées sur la tête du voyant. Essayons de dégager l'une et l'autre des obscurités de la légende comme des préjugés de l'école. Chapitre 2 : Les années de voyage. Samos était au commencement du VIe siècle avant notre ère, une des îles les plus florissantes de l'Ionie. La rade de son port s'ouvrait en face des montagnes violettes de la molle Asie mineure, d'où venaient tous les luxes et toutes les séductions. Dans une large baie, la ville s'étalait sur la rive verdoyante et s'étageait en amphithéâtre sur la montagne, au pied d'un promontoire couronné par le temple de Neptune. Les colonnades d'un palais magnifique la dominaient. Là régnait le tyran Polycrate. Après avoir privé Samos de ses libertés, il lui avait donné le lustre des arts et d'une splendeur asiatique. Des Étaïres de Lesbos, appelés parliers, s'étaient établis dans un palais voisin du sien et conviaient les jeunes gens de la ville à des fêtes où elle leur enseignait les voluptés les plus raffinées, assaisonnées de musique, de danses et de festins. Anacréon, appelé par Polycrate à Samos, y fut amené sur une trirème aux voiles de pourpre, aux mâts dorés, et le prophète, une coupe d'argent ciselée à la main, fit entendre devant cette haute cour du plaisir ses odes caressantes et parfumées comme une pluie de roses. La chance de Polycrate était devenu proverbial dans toute la Grèce. Il avait pour ami le pharaon Amasis, qui l'avertit plusieurs fois de se défier d'un bonheur aussi continu, et surtout de ne pas s'en vanter. Polycrate répondit à l'avis du monarque égyptien en jetant son anneau à la mer. « Je fais ce sacrifice aux dieux, » dit-il. Le lendemain, un pêcheur rapporta au tyran l'anneau précieux qu'il avait trouvé dans le ventre d'un poisson. Quand le pharaon apprit cela, il déclara qu'il rompait son amitié avec Polycrate parce qu'un bonheur aussi insolent lui attirerait la vengeance des dieux. Quoi qu'il en soit de l'anecdote, la fin de Polycrate fut tragique. Un de ses satrapes l'attira dans une province voisine, le fit expirer dans les tourments et ordonna d'attacher son corps à une croix sur le mont Mycale. Ainsi, les Samiens purent voir, dans un sanglant coucher de soleil, le cadavre de leur tyran crucifié sur un promontoire en face de l'île où il avait régné dans la gloire et les plaisirs. Mais revenons au début du règne de Polycrate. Par une nuit claire, un jeune homme était assis dans une forêt d'Anus castus aux feuilles luisantes, non loin du temple de Junon, dont la pleine lune baignait la façade dorienne et faisait ressortir la mystique majesté. Depuis longtemps, un rouleau de papyrus contenant un chant d'Homère avait glissé à ses pieds. Sa méditation, commencée au crépuscule, durait encore et se prolongeait dans le silence de la nuit. Depuis longtemps, le soleil s'était couché, mais son disque flamboyant flottait encore devant le regard du jeune songeur dans une présence irréelle, car sa pensée errait loin du monde visible. Pythagore était le fils d'un riche marchand de bagues de Samos et d'une femme nommée Parthénis. La pitié de Delphes, consultée dans un voyage par les jeunes mariés, leur avait promis un fils qui serait utile à tous les hommes dans tous les temps. Et l'oracle avait envoyé les époux à Sidon en Phénicie, afin que le fils prédestiné fût conçu, moulé et mis au jour, loin des influences troublantes de sa patrie. Avant sa naissance même, l'enfant merveilleux avait été voué avec ferveur par ses parents à la lumière d'Apollon, dans la lune de l'amour. L'enfant naquit. Lorsqu'il fut âgé d'un an, sa mère, sur un conseil donné d'avance par les prêtres de Delphes, le porta au temple d'Adonaï dans une vallée du Liban. Là, le grand prêtre l'avait béni. Puis, la famille s'en revint à Samos. L'enfant de Parthénis était très beau, doux, modéré, plein de justice. La seule passion intellectuelle brillait dans ses yeux et donnait à ses actes une énergie secrète. Loin de le contrarier, ses parents avaient encouragé son penchant précoce à l'étude de la sagesse. Il avait pu librement conférer avec les prêtres de Samos et avec les savants qui commençaient à fonder en Ionie des écoles où ils enseignaient les principes de la physique. À 18 ans, il avait suivi les leçons d'Hermodamas de Samos, à 20, celles de Pérécide à Syros. Il avait même conféré avec Thalès et Anaximandre à Milet. Ses maîtres lui avaient ouvert de nouveaux horizons, mais aucun ne l'avait satisfait. Entre leurs enseignements contradictoires, il cherchait intérieurement le lien, la synthèse, l'unité du grand tout. Maintenant, le fils de Parthénis en était arrivé à une de ces crises où l'esprit surexcité par la contradiction des choses concentre toutes ses facultés dans un effort suprême pour entrevoir le but, pour trouver le chemin qui mène au soleil de la vérité, au centre de la vie. Dans cette nuit chaude et splendide, le fils de Parthénis regardait tour à tour la terre, le temple et le ciel étoilé. Elle était là, sous lui, autour de lui, Déméter, la terre-mère, la nature qu'il voulait pénétrer. Il respirait ses émanations puissantes. Il sentait l'invincible attraction qu'il enchaînait sur son sein, lui, l'atome pensant, comme une partie inséparable d'elle-même. Ses sages, qu'il avait consultés, lui avaient dit « C'est d'elle que tout sort. Rien ne vient de rien. L'âme vient de l'eau ou du feu ou des deux. Subtile émanation des éléments, elle ne s'en échappe que pour y rentrer. Résigne-toi à sa loi fatale. Ton seul mérite sera de la connaître et de t'y soumettre. » Puis il regardait le firmament et les lettres de feu que forment les constellations dans la profondeur insondable de l'espace. Ces lettres devaient avoir un sens, car si l'infiniment petit, le mouvement des atomes a sa raison d'être, comment l'infiniment grand, la dispersion des astres, dont le groupement représente le corps de l'univers, ne l'aurait-il pas? Ah oui, chacun de ces mondes a sa loi propre, et tous ensemble se meuvent par un nombre et dans une harmonie suprême. Mais qui déchiffrera jamais l'alphabet des étoiles? Les prêtres de Junon lui avaient dit « C'est le ciel des dieux qui fut avant la terre. Ton âme en vient. Prie-les afin qu'elle y remonte. » Cette méditation fut interrompue par un chant voluptueux qui sortait d'un jardin sur les bords de l'Imbrasus. Les voix lascives des lesbiennes se mariaient langoureusement au son de la cithare. Des jeunes gens y répondirent par des airs bachiques. À ces voix se mêlèrent soudain d'autres cris perçants et lugubres partis du port. C'étaient des rebelles que Polycrate faisait charger dans une barque pour les vendre comme esclaves en Asie. On les frappait de lanières armées de clous pour les entasser sous les pontons des rameurs. Leurs hurlements et leurs blasphèmes se perdirent dans la nuit, puis tout rentra dans le silence. Le jeune homme eut un frisson douloureux, mais il le réprima pour se ramasser en lui-même. Le problème était devant lui, plus poignant, plus aigu. La terre disait « fatalité », le ciel disait « providence ». Et l'humanité qui flotte entre les deux répondait « folie, douleur, esclavage ». Mais au fond de lui-même, le futur adepte entendait une voix invincible qui répondait aux chaînes de la terre et au flamboiement du ciel par ce cri « liberté ». Qui donc avait raison? Des sages, des prêtres, des fous, des malheureux ou de lui-même? Ah, c'est que toutes ces voix disaient vrai, chacune triomphait dans sa sphère, mais aucune ne lui livrait sa raison d'être. Les trois mondes existaient immuables, comme le sein de Déméter, comme la lumière des astres et comme le cœur humain. Mais celui-là seul qui saurait trouver leur accord et la loi de leur équilibre serait un vrai sage. Celui-là seul posséderait la science divine et pourrait aider les hommes. C'est dans la synthèse des trois mondes qu'était le secret du cosmos. En prononçant ce mot qu'il venait de trouver, Pythagore se leva. Son regard fasciné s'attacha à la façade dorienne du temple. Le sévère édifice paraissait transfiguré sous les chastes rayons de Diane. Il crut y apercevoir l'image idéale du monde et la solution du problème qu'il cherchait. Car la base, les colonnes, l'architrave et le fronton triangulaire lui représentèrent soudain la triple nature de l'homme et de l'univers, du microcosme et du macrocosme, couronnée par l'unité divine, qui est elle-même une trinité. Le cosmos, dominé et pénétré par Dieu, formait la tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Oui, elle était là, cachée dans ses lignes géométriques, la clé de l'univers, la science des nombres, la loi ternaire qui régit la constitution des êtres, celle du septénaire, qui préside à leur évolution. Et dans une vision grandiose, Pythagore vit les mondes se mouvoir selon le rythme et l'harmonie des nombres sacrés. Il vit l'équilibre de la terre et du ciel, dont la liberté humaine tient le balancier. Les trois mondes, naturels, humains et divins, se soutenant, se déterminant l'un l'autre et jouant le drame universel par un double mouvement descendant et ascendant. Il devina les sphères du monde invisible, enveloppant le visible et l'animant sans cesse. Il conçut enfin l'épuration et la libération de l'homme dès cette terre par la triple initiation. Il vit tout cela et sa vie et son œuvre dans une illumination instantanée et claire, avec la certitude irréfragable de l'esprit qui se sent en face de la vérité. Ce fut un éclair. Maintenant, il s'agissait de prouver par la raison ce que sa pure intelligence avait saisi dans l'absolu. Et pour cela, il fallait une vie d'homme, un travail d'Hercule. Mais où trouver la science nécessaire pour mener à bonne fin un tel labeur? Ni les champs d'Homère, ni les sages de l'Ionie, ni les temples de la Grèce ne pouvaient y suffire. L'esprit de Pythagore, qui soudain avait trouvé des ailes, se mit à plonger dans son passé, dans sa naissance enveloppée de voiles, et dans le mystérieux amour de sa mère. Un souvenir d'enfance lui revint avec une précision incisive. Il se rappela que sa mère l'avait porté à l'âge d'un an dans une vallée du Liban, au temple d'Adonai. Il se revit petit enfant, enlacé au cou de Parthénis, au milieu de montagnes colossales, de forêts énormes, où un fleuve tombait en cataracte. Elle était debout sur une terrasse ombragée de grands cèdres. Devant elle, un prêtre majestueux à barbe blanche souriait à la mère et à l'enfant, en disant des paroles graves qu'il ne comprenait pas. Sa mère lui avait rappelé souvent les mots étranges du hiérophante d'Anoaï. « Ô femme Ionie, ton fils sera grand par la sagesse. Mais souviens-toi que si les Grecs possèdent encore la science des dieux, la science de Dieu ne se trouve plus qu'en Égypte. Ces paroles lui revenaient, avec le sourire maternel, avec le beau visage du vieillard et le fracas lointain de la cataracte, dominé par la voix du prêtre, dans un paysage grandiose, comme le rêve d'une autre vie. Pour la première fois, il devinait le sens de l'oracle. Il avait bien entendu parler du savoir prodigieux des prêtres égyptiens, et de leur mystère formidable. Mais il croyait pouvoir s'en passer. Maintenant, il avait compris qu'il lui fallait cette science de Dieu pour pénétrer jusqu'au fond de la nature et qu'il ne la trouverait que dans les temples de l'Égypte. Et c'était la douce Parthénis qui, avec son instinct de mère, l'avait préparée pour cette œuvre, l'avait portée comme une offrande au Dieu souverain. Dès lors, sa résolution fut prise de se rendre en Égypte et de s'y faire initier. Polycrate se vantait de protéger les philosophes autant que les poètes. Il s'empressa de donner à Pythagore une lettre de recommandation pour le pharaon Amasis, qui le présenta au prêtre de Memphis. Ceux-ci ne le reçurent qu'en regimbant et après maintes difficultés. Les sages égyptiens se défiaient des Grecs qu'ils taxaient de léger et d'inconstant. Ils firent tout pour décourager le jeune Samien. Mais le novice se soumit avec une patience et un courage inébranlables aux lenteurs et aux épreuves qu'on lui imposa. Il savait d'avance qu'il n'arriverait à la connaissance que par l'entière domination de la volonté sur tout son être. Son initiation dura 22 ans sous le pontificat du grand prêtre Sonkis. Nous avons raconté au livre d'Hermès les épreuves, les tentations, les épouvantes et les extases de l'initié d'Isis, jusqu'à la mort apparente cataleptique de l'adepte, et à sa résurrection dans la lumière d'Osiris. Pythagore traversa toutes ces phases qui permettaient de réaliser, non pas comme une vaine théorie, mais comme une chose vécue, la doctrine du Verbe Lumière ou de la Parole universelle et celle de l'évolution humaine à travers les 7 cycles planétaires. À chaque pas de cette vertigineuse ascension, les épreuves se renouvelaient, plus redoutables. 100 fois, on y risquait sa vie, surtout si l'on voulait arriver au maniement des forces occultes, à la dangereuse pratique de la magie et de la théurgie. Comme tous les grands hommes, Pythagore avait foi dans son étoile. Rien de ce qui pouvait conduire à la science ne le rebutait, et la crainte de la mort ne l'arrêtait pas, parce qu'il voyait la vie au-delà. Quand les prêtres égyptiens eurent reconnu en lui une force d'âme extraordinaire et cette passion impersonnelle de la sagesse, qui est la chose du monde la plus rare, ils lui ouvrirent des trésors de leur expérience. C'est chez eux qu'il se forma et se trempa. C'est là qu'il put approfondir les mathématiques sacrées, la science des nombres ou des principes universels, dont il fit le centre de son système et qu'il formula d'une manière nouvelle. La sévérité de la discipline égyptienne dans les temples lui fit connaître, d'autre part, la puissance prodigieuse de la volonté humaine, savamment exercée et entraînée, ses applications infinies tant au corps qu'à l'âme. La science des nombres et l'art de la volonté sont les deux clés de la magie, disaient les prêtres de Memphis. Elles ouvrent toutes les portes de l'univers. C'est donc en Égypte que Pythagore acquit cette vue d'en haut, qui permet d'apercevoir les sphères de la vie et les sciences dans un ordre concentrique, de comprendre l'involution de l'esprit dans la matière par la création universelle et son évolution ou sa remontée vers l'unité par cette création individuelle qui s'appelle le développement d'une conscience. Pythagore était parvenu au sommet du sacerdoce égyptien et songeait peut-être à revenir en Grèce lorsque la guerre vint fondre sur le bassin du Nil avec tous ses fléaux et entraîner l'initié d'Osiris dans un nouveau tourbillon. Depuis longtemps, les despotes de l'Asie méditaient la perte de l'Égypte. Leurs assauts répétés pendant des siècles avaient échoué devant la sagesse des institutions égyptiennes, devant la force du sacerdoce et l'énergie des pharaons. Mais l'immémorial royaume, asile de la science d'Hermès, ne devait pas durer éternellement. Le fils du vainqueur de Babylone, Cambyse, vint s'abattre sur l'Égypte, avec ses armées innombrables et affamées comme des nuées de sauterelles, et mettre fin à l'institution du pharaonat, dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Aux yeux des sages, c'était une catastrophe pour le monde entier. Jusque-là, l'Égypte avait couvert l'Europe contre l'Asie. Son influence protectrice s'étendait encore sur tout le bassin de la Méditerranée, par les temples de la Phénicie, de la Grèce et de l'Étrurie, avec lesquels le haut sacerdoce égyptien était en relation constante. Ce boulevard, une fois renversé, le taureau allait fondre, tête baissée, sur les rivages de l'Hellénie. Pythagore vit donc Cambyse envahir l'Égypte. Il put voir le despote persan, digne héritier des scélérats couronnés de Ninive et de Babylone, saccager les temples de Memphis et de Thèbes et détruire celui d'Amon. Il put voir le pharaon, Psaménite, conduit devant Cambyse, chargé de fer, placé sur un tertre, autour duquel on fit ranger les prêtres, les principales familles et la cour du roi. Il put voir la fille du pharaon, vêtue de haillons et suivie de toutes ses filles d'honneur pareillement travesties, le prince royal et 2000 jeunes gens amenés, le mort à la bouche et le licolo au cou avant d'être décapités. Le pharaon Psaménite, refoulant ses sanglots devant cette scène affreuse, et l'infâme Cambyse, assis sur son trône, se repaissant de la douleur de son adversaire terrassé. Cruelle mais instructive leçon de l'histoire, après les leçons de la science. Quelle image de la nature animale déchaînée dans l'homme, aboutissant à ce monstre du despotisme qui foule tout à ses pieds et impose à l'humanité le règne du plus implacable destin, par sa hideuse apothéose. Cambyse fit transporter Pythagore à Babylone avec une partie du sacerdoce égyptien et l'y interna. Cette ville colossale, qu'Aristote compare à un pays environné de murs, offrait alors un immense champ d'observation. L'antique Babel, la grande prostituée des prophètes hébreux, était plus que jamais, après la conquête persane, un pandémonium de peuples, de langues, de cultes et de religions, au milieu desquels le despotisme asiatique dressait sa cour vertigineuse. Selon les traditions persanes, sa fondation remontait à la légendaire Sémiramis. C'est elle, disait-on, qui avait bâti son enceinte monstre de 85 km de tour. L'île Gumbel, ses murs, où deux chars couraient de front, ses terrasses superposées, ses palais massifs aux reliefs polychromes, ses temples supportés par des éléphants de pierre et surmontés de dragons multicolores, là s'était succédé la série des despotes qui avaient asservi la Chaldée, la Syrie, la Perse, une partie de la Tartarie, la Judée, la Syrie et l'Asie mineure. C'est là que Nebuchadnezzar, l'assassin des mages, avait traîné en captivité le peuple juif, qui continuait à pratiquer son culte dans un coin de l'immense cité, où Londres aurait tenu quatre fois. Les Juifs avaient même fourni au grand roi un ministre puissant en la personne du prophète Daniel. Avec Balthazar, fils de Nebuchadnezzar, les murs de la vieille Babel s'étaient enfin écroulés sous les coups vengeurs de Cyrus. Et Babylone passa pour plusieurs siècles sous la domination persane. Par cette série d'événements antérieurs, au moment où Pythagore vint, trois religions différentes se côtoyaient dans le haut sacerdoce de Babylone. Les antiques prêtres chaldéens, les survivants du magisme persan et l'élite de la captivité juive. Ce qui prouve que ces divers sacerdoces s'accordaient entre eux par le côté ésotérique. C'est précisément le rôle de Daniel qui, tout en affirmant le dieu de Moïse, resta premier ministre sous Nebuchadnezzar, Balthazar et Cyrus. Pythagore dut élargir son horizon déjà si vaste en étudiant ses doctrines, ses religions et ses cultes, dont quelques initiés conservaient encore la synthèse. Il put approfondir à Babylone les connaissances des mages héritiers de Zoroastre. Si les prêtres égyptiens possédaient seuls les clés universelles des sciences sacrées, les mages persans avaient la réputation d'avoir poussé plus loin la pratique de certains arts. Ils s'attribuaient le maniement de ces puissances occultes de la nature qui s'appellent le feu pantomorphe et la lumière astrale. Dans leur temple, disait-on, les ténèbres se faisaient en plein jour, les lampes s'allumaient d'elles-mêmes, on voyait rayonner les dieux et on entendait gronder la foudre. Les mages appelaient lion céleste ce feu incorporel, agent générateur de l'électricité qu'ils savaient condenser ou dissiper à leur gré, et serpent, les courants électriques de l'atmosphère, magnétiques de la terre, qu'ils prétendaient diriger comme des flèches sur les hommes. Ils avaient fait aussi une étude spéciale de la puissance subjective, attractive et créatrice du verbe humain. Ils employaient pour l'évocation des esprits des formulaires gradués et empruntés aux plus vieilles langues de la terre. Voici la raison psychique qu'ils en donnaient eux-mêmes. Ne change rien au nom barbare de l'évocation, car ils sont les noms panthéistiques de Dieu. Ils sont aimantés des adorations d'une multitude, et leur puissance est ineffable. Ces évocations pratiquées au milieu des purifications et des prières étaient à proprement parler ce qu'on appela plus tard la magie blanche. Pythagore pénétra donc à Babylone dans les arcanes de l'antique magie. En même temps, dans cet antre du despotisme, il vit un grand spectacle. Sur les débris des religions croulantes de l'Orient, au-dessus de leurs sacerdoces dessinés et dégénérés, un groupe d'initiés intrépides, serrés ensemble, défendaient leur science, leur foi et, autant qu'ils le pouvaient, la justice. Debout en face des despotes, comme Daniel dans la fosse aux lions, toujours prêt d'être dévoré, ils fascinaient et domptaient la bête fauve du pouvoir absolu par leur puissance intellectuelle et lui disputaient le terrain pied à pied. Après son initiation égyptienne et chaldéenne, l'enfant de Samos en savait bien plus que ses maîtres de physique et qu'aucun autre grec, prêtre ou laïc de son temps. Il connaissait les principes éternels de l'univers et leurs applications. La nature lui avait ouvert ses abîmes. Les voiles grossiers de la matière s'étaient déchirés à ses yeux pour lui montrer les sphères merveilleuses de la nature et de l'humanité spiritualisées. Dans le temple de Neitisis à Memphis, dans celui de Bel à Babylone, il avait appris bien des secrets sur le passé des religions, sur l'histoire des continents et des races. Il avait pu comparer les avantages et les inconvénients du monothéisme juif, du polythéisme grec, du trinitarisme hindou et du dualisme persan. Il savait que toutes ces religions étaient les rayons d'une même vérité, tamisés par divers degrés d'intelligence et pour divers états sociaux. Il tenait la clé, c'est-à-dire la synthèse de toutes ces doctrines dans la science ésotérique. Son regard, embrassant le passé, plongeant dans l'avenir, devait juger le présent avec une singulière lucidité. Son expérience lui montrait l'humanité menacée des plus grands fléaux par l'ignorance des prêtres, le matérialisme des savants et l'indiscipline des démocraties. Au milieu du relâchement universel, il voyait grandir le despotisme asiatique. Et de ce nuage noir, un cyclone formidable allait fondre sur l'Europe sans défense. Il était donc temps de revenir en Grèce, d'y accomplir sa mission, d'y commencer son œuvre. Pythagore avait été interné à Babylone pendant 12 ans. Pour en sortir, il fallait un ordre du roi des Perses. Un compatriote, Démocède, le médecin du roi, intercéda en sa faveur et obtint la liberté du philosophe. Pythagore revint donc à Samos après 34 ans d'absence. Il trouva sa patrie écrasée sous un satrape du grand roi. Écoles et temples étaient fermés. Poètes et savants avaient fui comme une nuée d'hirondelles devant le césarisme persan. Du moins, eut-il la consolation de recueillir le dernier soupir de son premier maître, Hermodamas, et de retrouver sa mère, Parthénie, qui seule n'avait pas douté de son retour. Car tout le monde avait cru mort le fils aventureux du bijoutier de Samos. Mais jamais elle n'avait douté de l'oracle d'Apollon. Elle comprenait que, sous sa robe blanche de prêtre égyptien, son fils se préparait à une haute mission. Elle savait que du temple de Neitisis sortirait le maître bienfaisant, le prophète lumineux dont elle avait rêvé dans le bois sacré de Delphes, et que l'hiéropante d'Adonai lui avait promis sous les cèdres du Liban. Et maintenant, une barque légère emportait, sur les flots azurés des Cyclades, cette mère et ce fils vers un nouvel exil. Ils fuyaient, avec tout leur avoir, Samos, opprimé et perdu. Ils faisaient voile pour la Grèce. Ce n'étaient ni les couronnes olympiques, ni les lauriers du poète qui tentait le fils de Parthénis. Son œuvre était plus mystérieuse et plus grande. réveiller la mandormie des dieux dans les sanctuaires, rendre sa force et son prestige au temple d'Apollon, et puis fonder quelque part une école de science et de vie, d'où sortiraient non pas des politiciens et des sophistes, mais des hommes et des femmes initiés, de vrais maîtres et de purs héros.